Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Lorsque Hachem a créé le monde, il a créé sur la base de 7. Je vais m'expliquer. C'est pour ça que, par exemple, il y a 7 jours dans la semaine. Comme il y a eu 7 jours de création, 6 jours plus le Shabbat. Le rythme de 7, qu'on ne trouve au départ que dans la Torah. Ça veut dire, comprenons bien que c'est un vrai chidouche, une vraie révolution. À titre d'exemple, dans les civilisations occidentales, on comprend tout sur le mode décimal, 10. C'est ainsi d'ailleurs que, vous le devez sûrement savoir en tant que gros bûcheur de votre histoire géo à l'école, vous devez savoir que Napoléon a essayé de faire passer les semaines à 10 jours. It was a very big échec. Échec, on dit en anglais. C'était un crash, un flash, un plouf, un boom. Bref, ça n'a pas marché. Parce que le rythme de 7 est en fait le rythme que le Créateur a mis dans la nature. C'est important d'intégrer ça. Alors, ce chiffre 7, l'objet de vous expliquer en profondeur qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'on retrouve ce chiffre-là, par exemple, je sais que mon épouse, Mme Sitruk, a suivi une formation de, qu'on va appeler de, pas vraiment de kinésie, mais de rééducation, mis en place par un professeur israélien et qui était révolutionnaire. C'est un monsieur qui a eu un accident très grave, qui s'est littéralement fracassé le genou, entre autres, et il était condamné ou bien à une amputation, ou bien à une prothèse. Il a refusé ça et ça, et il a dit « je vais me rééduquer tout seul ». Il s'appelait pas Feuerstein, son nom va me revenir. Et ce monsieur, il a observé pour sa rééducation les mouvements naturels que font les tout petits bébés. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit bébé qui a quelques semaines, et vous le mettez sur le ventre, il se met comme s'il nageait. Il fait des mouvements spontanés du bras et des jambes. Et en fait, on croit que le bébé fait ça par réflexe, par hasard, c'est un réflexe. Un réflexe pour pouvoir bien sentir ses membres et les remettre en place, notamment après la naissance. Et c'est là-dessus que ce fameux Israélien a mis en place de l'auto-gymnastique qui permet à quelqu'un qui a des lésions, même graves, de se rééduquer lui-même. Et c'est assez impressionnant. Quand on apprend ces petits mouvements qui paraissent rien du tout, on peut corriger des tas. Bon, moi, j'ai l'expérience, hélas, depuis ma maladie, enfin, depuis mon accident. Mais même avant, je me souviens, puisque mon épouse était déjà dans le coup, par exemple, j'avais très souvent des maux de, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, à la nuque. Des douleurs qu'on appelle cervicales. Et en fait, j'étais allé voir, j'ai fait des radios, médecins, et ils m'ont dit, vous avez les disques qui sont un petit peu collés, donc il faut, je ne sais pas quoi, bon. Et en fait, les mouvements qu'on apprend à faire avec ce professeur permettent de... Alors, il fallait ou bien traiter la douleur en permanence, c'est-à-dire des médicaments qui, au départ, sont de l'aspirine, puis après, vous prenez de ça, et de ça, et de ça, et vous arrivez à la cortisone pour éviter la douleur. Ce que la plupart des gens font, qui est une catastrophe, parce que le corps s'habitue, il finit par se déformer, et etc. Et cette méthode-là que les bons kinés connaissent bien, c'est en fait une méthode qui permet à l'homme de se faire des mouvements lui-même et donc de relâcher la tension qui est au niveau du cou, par exemple. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans cette méthode-là, ce fameux Israélien, qui était un type pas du tout religieux, qui était dans un kibbutz de la Shomer Hatzair, à l'origine, il dit que pour qu'un mouvement soit intégré dans le corps, il faut le répéter 7 fois. C'est au bout de 7 fois que la mémoire, on va dire, profonde de l'homme, que dans le plan de son cerveau, on intègre une information. C'est d'ailleurs intéressant pour vous, par exemple, quand vous révisez une leçon, répétez-la au moins 7 fois. Au bout de 7 fois, ça rentre pas parce que vous êtes ou bien Ahmar. Il ferait bien de s'arrêter de faire des études. On pourrait être sérieux. C'est ou 7 fois ou bien 101 fois. Comme ça, dit la Torah. Pourquoi 101 ? Parce que les Rahamim disent dans une phrase célèbre, ce que l'on répète 101 fois ne s'oublie jamais. Pourquoi ? Si déjà j'ai ouvert cette parenthèse, il y a une très jolie chose en hébreu. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Alors par exemple, le Aleph, c'est 1. Le Bet, 2. Guimel, 3, etc. Le Zayn, 7. Le Kaf, le Resh, 200. Donc, Zecher, souvenir, c'est 200. C'est-à-dire 227. Maintenant, Shachar en hébreu, qui veut dire oublier, c'est un Shin, c'est... 328. Pff, quelle classe. Il l'a dit en premier. 328 moins 227. Pour passer de la mémoire, de l'oubli à la mémoire, il faut faire 101 fois. Juste un petit mode, on va dire, moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. C'est pour ça qu'on... Plétine ?
Il vaut mieux que 328 fois.
En tout cas, le chiffre 7, c'est celui sur lequel, c'est ce qu'on appelle dans la tradition le binyan, la manière dont Hachem a construit le monde. Mais en fait, ce binyan-là, il est, voilà pourquoi je vous ai fait un petit schéma très, très schématique, comme son nom l'indique, pour vous expliquer tout cela. Il n'est pas le fait du hasard. Alors, les 7 semaines de l'Omer, il s'agit de 7. Tu arrêtes de faire ta gym, toi ?
Cette fois, le moment.
Enfin, d'accord, tu peux. Voilà, elle s'est arrêtée de faire les Teilim. Arrête-toi de faire la gym, vous reprendrez tout ça après. Vous avez le cours qui s'arrête à 8h moins 5. Vous savez jusqu'à lundi prochain où il y a le cours à Hoche pour répéter les mouvements, les Teilim et tout. Et pendant les cours, on étudie. Alors, les 7 semaines ont chacune un thème principal. Qui est une des 7, s'appelle en hébreu des séphirot. Séphirot, ça veut dire en fait des sphères. C'est facile à se rappeler. Séphirot, séphère. Sphère, c'est la même racine. En hébreu, c'est une racine très intéressante, parce que samer, pé et vesh, ça veut dire à la fois raconter, ça veut dire compter. Mispar, en hébreu, c'est un chiffre. Saper, sa père, oui, c'est Admisraim, c'est raconté. Donc, ça veut dire également sphère. Sphère, ça veut dire un monde en soi. Quand Hachem a créé le monde, Aolam, en hébreu, il a utilisé les 7 dimensions de la création. Quand on fait, on récite l'Omer, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend toutes ces dimensions et on les combine, les unes avec les autres. Alors, regardez maintenant que j'ai fait cette petite introduction avant de voir la feuille que je vous ai préparée. Regardez le Patar Eliyahu. Vous avez, donc, au compte de l'Omer, après la Bracha, en marge, Nissan 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre de l'Omer. Et vous avez, prenons par exemple le premier, le numéro 1, Yom Echad la Omer. Aujourd'hui, donc, premier jour de l'Omer. Vous avez en écrit 100 points, Chesed, Sheba Chesed. Donc, le premier jour inaugure, initie la semaine qu'on appelle du Chesed. C'est-à-dire que pendant la première, jour de la première semaine de l'Omer, le thème central, la sphère centrale, c'est le Chesed. Ça veut dire que, puisque le but est de se préparer à Shavuot, c'est-à-dire au don de la Torah, chacun d'entre nous doit essayer de se préparer, de se travailler dans cette dimension qu'on appelle le chesed, que vous allez me traduire.
Bonté.
Bonté, c'est ouais, pas mal, c'est pas faux, mais mieux, j'entends mieux. Essayez d'autres traductions. C'est pas grave si vous vous plantez. Hein? Ça peut être bonté, ça peut être générosité, ça peut être amour. Et en fait, Chesed désigne l'amour gratuit. C'est-à-dire, généralement, On peut, par exemple, je vais expliquer ce que je veux dire. Il y a deux mots en hébreu à ses voisins, c'est chesed et rahamim. Rahamim, ça veut dire la miséricorde. Chesed, je traduis un mot. Bonté, générosité. La différence entre les deux. Si je marche dans la rue, il y a un mendiant qui me tend la main et je lui donne une pièce, j'ai fait un acte de rahamim. J'ai eu pitié du monsieur et donc il m'a sollicité et j'ai donné. Maintenant, si, sans que personne me sollicite, je suis chez moi et je décide de donner, sans sollicitation, sans aucune raison, ça s'appelle du chesed, amour gratuit. Pour retenir cette idée-là, je tiens à bien vous l'expliquer, il y a un psaume, le psaume 89, Bétet en hébreu, dans lequel on lit là-bas, Olam chesed ibane, c'est-à-dire, le monde est bâti, construit sur le chesed. Ce verset vient répondre à une question. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Question que je vous pose, mesdemoiselles, messieurs. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Vous avez la réponse dans ce verset. Voilà, il voulait faire du chesed. Olam chesed ibané. Le monde a été construit par chesed. C'est-à-dire, je ne connais pas la raison qui a motivé Hachem, je peux savoir qu'une seule chose, qu'il n'en avait pas besoin. Ça s'appelle un acte de chesed. Quand je donne quelque chose parce que j'en ai pas besoin, parfois je fais quelque chose parce que j'attends qu'on me remercie, parce que j'en tire un profit, parce que j'en ai moi-même, je me sens bonifié, flatté par ce que je fais. C'est pas du chesed. Chesed, il n'y a rien, absolument rien. J'attends rien de personne. Je le fais gratuitement, totalement. Personne, peut-être même, ne sera jamais au courant. Ça, c'est la véritable générosité. D'accord ? Alors, regardez donc. On va après lire ma petite feuille, mais on va continuer juste quelques lignes dans le Patar. Regardez le jour 1, c'est Chesed Sheva Chesed, c'est-à-dire la générosité dans la générosité. Ça veut dire que ce jour-là, on devrait les uns et les autres se demander, est-ce que je suis quelqu'un de généreux dans l'absolu, qui n'attend aucune sollicitation pour donner ? Des fois, j'ai parlé d'Atsiraka, vous avez un petit bébé, un petit enfant, qui dit à sa maman, « Maman, un bisou, maman, donne-moi à manger, maman, fais-moi ceci. » Ce n'est pas un acte de chesed. La maman va répondre à la sollicitation de l'enfant. Maintenant, si d'elle-même, la mère, elle dit, « J'ai pas donné manger à mon fils. » Elle lui donne, « J'ai pas lavé mon petit garçon. Je n'ai pas, je suis pas occupé de lui. » Et que d'elle-même, elle entreprend un geste quel qu'il soit, c'est du chesed. Chesed, c'est pas répondre à un besoin, à une sollicitation. C'est une démarche initiale. C'est moi qui décide de. OK ? Alors, on doit, les uns et les autres, essayer de se travailler. Tu m'écoutes, Jonathan ? Dans ce domaine, est-ce que vraiment je suis quelqu'un de généreux ? Vous avez des gens, vous leur posez la question, vous dites, mais moi, j'ai jamais rien refusé. Hein. Dès qu'on me demande la tzedaka pour une école, une yeshiva, un pauvre, je donne. Mais est-ce qu'il était déjà arrivé, tout seul, de décider de donner ? Vous verrez dans vos vies, c'est très très rare, très difficile, de soi-même décider de faire du bien. C'est ça la dimension de Chesed Sheba Chesed. Mais, pendant la première semaine, regardez bien ce qui se passe, on suit le patard de, qu'est-ce qu'on voit là-bas, Gevura Sheba Chesed. 3, c'est une abréviation, ça veut dire Tiferet Sheba Chesed. 4, Netzar Sheba Chesed. 5, Hod Sheba Chesed. 6, Yesod Sheba Chesed. 7, Malchut Sheba Chesed. Qu'est-ce que l'on vient de faire ? On vient de décliner les 7 dimensions, les séphirotes, dans le Chesed. Ce que nous allons maintenant, si vous avez compris ce schéma-là, on va maintenant prendre la petite feuille que je vous ai transmise. Regardez bien. Parce que là aussi, j'ai besoin de l'expliquer. Alors, en fait, J'ai parlé de sept séphirodes, mais ils sont toutes inspirées de trois principes que j'ai marqués en haut, exprès avec un tri qui ne sait pas, parce qu'elles ne font pas partie des séphirodes. À droite, Chochma, à gauche, Bina, au milieu, Da'at. On va traduire Chochma. Rashi nous dit dans le Chumash, dans la paracha de Gilsam, c'est ce que l'on apprend des autres. La sagesse que j'ai appris des autres. Un maître m'a enseigné quelque chose, ça constitue ma chokhma. À gauche, Bina, c'est ce que l'on déduit de soi-même. Ça veut dire, j'ai appris des choses dans la vie, et puis j'ai l'intelligence pour en déduire d'autres. Ça s'appelle Bina. Pour se rappeler, à moi-même les mots techniques, Bina, ça vient du mot Ben, avec un yud au milieu. Ben, ça veut dire entre. C'est ce qui permet de déduire une chose d'une autre chose. Et au milieu, on a Da'at. Da'at, c'est l'équilibre des deux, c'est la synthèse des deux, c'est ce qui permet à quelqu'un de décider. Dans ma vie, quand je prends une décision, quelle qu'elle soit, je fais fonctionner mon Da'at. Ça veut dire, c'est par exemple une qualité par laquelle, dans la tradition, on désigne un adulte. Un enfant, on dit, qui a moins de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, on dit comme ça dans la Guémara et c'est dans la Lacha, en bo da'at. Ça dit quoi, en bo da'at? Il est incapable de décider. C'est très intéressant, parce qu'être un adulte, ça veut dire peser le pour et le contre. Chochma et Bina. On me demande quelque chose, je pense quelque chose, il faut que j'arrive à décider quelque chose. Da'at, c'est le propre de la maturité. Alors évidemment, ces mots-là, difficile de les traduire en français. Chochma veut dire sagesse, Bina veut dire intelligence, Da'at veut dire perspicacité. Tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on comprend, comme je viens de vous le définir, on est en fait dans la vraie compréhension du mode de fonctionnement de l'intelligence. Une intelligence humaine, elle fonctionne de cette façon, elle apprend des choses, elle déduit des choses, puis après elle devient autonome. Da'at, je décide. Par exemple, on dit que quelqu'un est un adulte quand il a du da'at. Pourquoi ? Parce qu'il est libre de décider. Il est capable de réfléchir, de peser le pour et le contre. On dit qu'un dayan, un juge ou bien un rave, c'est quelqu'un qui décide. Décide quoi ? Une halakha. Vous me demandez par exemple, est-ce que j'ai le droit de manger telle chose ? Bon, ça peut faire appel à mes connaissances, ça peut faire appel à mes déductions, ça peut faire appel à ma capacité de trancher. Parce qu'en fait, dans la vie, vous me suivez là les enfants, je dis des choses assez... faut bien suivre. Dans la vie, très souvent, ce que me demande, c'est pas une connaissance. Par exemple, un ordinateur, il peut être haram. Un ordinateur, peut-être qu'il peut être... il peut avoir de la Bina, mais il n'y a que l'homme qui peut avoir du Da'at. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va être capable de décider, de déduire qu'est-ce qu'il faut faire là. Voilà, je vais vous donner un exemple, on va dire, basique. Mon père ou ma mère me demande de faire telle chose. Cette chose est contraire à la Torah. Qu'est-ce que je dois faire ? Leur obéir, c'est désobéir à Dieu. Leur désobéir, c'est aussi désobéir à Dieu, puisque Hachem a dit, tu honoreras, tu respecteras ton père et ta mère. Alors comment je vais décider ? Ça s'appelle le Da'at. En fonction de la situation, un rav, il est capable de peser le pour et le contre, de mesurer tout l'impact d'une décision, et de dire, voilà, il faut faire comme ça. Et toute la halakha, en fait, c'est ça, cette démarche de la halakha. C'est une démarche de pondération des situations. Il est interdit de se mettre en danger. D'autre part, on a l'obligation d'avoir confiance en Dieu. Quelqu'un est malade. Il a besoin de prendre un médicament, mais ce médicament, il n'est pas gâchère. Qu'est-ce qu'il va faire ? Si je prends un produit pas gâchère, je désobéis à Hachem. Si je ne prends pas ce médicament, d'après les médecins, je suis en danger. Je risque de perdre la vie. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est un exemple basique. C'est ça, Da'at. Da'at, c'est peser pour, contre, et finalement de décider. Alors, en fait, voilà pourquoi j'ai voulu vous mettre ça dans le schéma, parce que vous voyez d'un côté, droite, Rochma, gauche, Bina, Da'at, milieu. Et j'ai fait exprès, parce que c'est comme ça que ça se... C'est comme ça que ça se... dessine, si j'ose dire. C'est-à-dire, en fait, le Da'at, c'est la synthèse entre Rochma et Bina. Notez, entre parenthèses, d'ailleurs, que, avec une prétention infinie, c'est du moins mon appréciation personnelle, il y a un mouvement que vous connaissez bien, qui a pris ces trois mots, il n'a pris que les initiales. Rochma. Rochma. La première lettre de Chochma, voilà, Chabad. Chochma, Bina et Da'at. D'accord ? Genre, chez nous, il y a tout. Sama. Ok ? En fait, voilà les trois axes sur lesquels le monde est bâti. Maintenant, quand on descend après le trait que j'ai tiré, on trouve dans le détail les sept séphirot, qui sont en fait le développement de ces trois-là. On trouve à droite, on va prendre la première ligne, Chesed, que j'ai marqué numéro 1. En face, vous trouvez Givoua. Alors, Chesed veut dire la générosité à l'état pur, on est bien d'accord. Givoua veut dire au contraire... La rigueur. La rigueur. Alors, regardez bien. Un monde qui serait fait que de générosité n'est pas viable. Si je suis généreux à l'excès, par exemple, je ne suis jamais condamné à meurtrier. Hein ?
Pourquoi la rigueur ? Ça peut être la gloire aussi.
Non, non, Gevura, c'est la rigueur. Gevura, non, en hébreu moderne, on traduit la force, Gevura.
Oui.
Pas la gloire. Gloire, ça n'a rien à voir. Nous allons y arriver après, la gloire. Gvura, ça veut dire la force, la rigueur. Et en fait, c'est quoi Gvura ? C'est la force de se retenir. Dans ma vie, pour pouvoir équilibrer mon existence, j'ai besoin de donner, précède, et des fois de retenir. Par exemple, pour un exemple encore une fois basique mais très fondamental, tous les amours ne sont pas permis. Comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas aimer. Par exemple, soi-disant les chrétiens, ils ont dit, si on te donne une gifle, tu tends l'autre joue. Si quelqu'un t'a agressé, il ne faut pas l'agresser. Chesed, c'est une religion qui a voulu se construire que sur le Chesed. Elle devient la religion la plus cruelle du monde. Où est-ce qu'est née l'Allemagne nazie ? Pas en Asie, pas en Islam, dans le monde chrétien. Le monde, entre guillemets, soi-disant de la générosité. C'est-à-dire, quand il n'y a que du Chesed, le monde y devient n'importe quoi. Si je dis « il faut aimer », je vais aimer n'importe quelle femme. Je vais donc faire des harayot, ce que la Torah appelle des incestes. L'amour seul est très dangereux, il peut tuer l'homme. Vura, ça veut dire se retenir. C'est là où on rejoint, vice. C'est là où on rejoint la définition seconde de Vura, qui veut dire la force. Parce que pour se retenir dans la vie, il faut être fort. Voilà, moi... Je suis amoureux d'une fille. Je parle pas de moi, parce que moi, c'est vrai en plus. Moi, je suis amoureux, mais j'ai déjà résolu ce problème. Et puis, je peux pas l'épouser parce que, par exemple, elle n'est pas juive. Ou, par exemple, c'est une parente proche. Elle m'est interdite par la Torah. Qu'est-ce que je dois faire ? Je m'abstiens. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais contrarier cet amour. Je fais preuve de Gevura. Comprenez ce que je veux dire ? Par la Gevura, je tempère, je limite. Je canalise mon amour. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de chesed sans gevoa. Autrement, c'est n'importe quoi. J'insiste lourdement là-dessus, pour que vous compreniez bien que sans ça, il n'y a pas de vie possible. Alors, j'ai mis en rouge, et d'ailleurs c'est bien, la photocopie a été en couleur, en rouge, j'ai mis les personnages qui ont illustré chacune des qualités que nous allons voir. Abraham, c'était l'homme du Chesed. Abraham, lui, c'était la générosité absolue. Dans toute sa vie, quand on lit la Torah, on voit, il avait une tente ouverte aux 80, Par exemple, moi, j'ai fait le maximum. J'ai que 3 portes dans ma maison. Je n'ai pas réussi à trouver la 4e. Alors, peut-être que quand l'immeuble, ils ont fini à côté des travaux, j'ouvrirai une 4e porte. Mais le fait est qu'avoir une tente ouverte à 80, c'est faire preuve d'une générosité extraordinaire. Abraham, sous le soleil du désert, il traquait les invités. Si quelqu'un passait, tu as mangé, toi, viens, viens chez moi. Tu as bu, viens. Il y a à boire, il y a à manger chez moi. Et ainsi de suite. Toute la vie d'Abraham, c'était ça. L'autre personnage à l'autre extrême, c'est Yitzhak. Qui est Yitzhak? Le fils d'Abraham. Celui qui, au contraire, on lui donne un ordre. Son père lui dit, viens, on va aller sur la montagne. Hachem a demandé de te sacrifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok. On discute pas. C'est celui qui est la discipline. La soumission totale, Gvoura. La force de Yitzhak, qui ne cherche pas à remettre Dieu en question. Comment Dieu peut donner un tel ordre? Tuer son fils. Abraham, lui, il ne s'est même pas posé la question par la générosité. Yitzhak, lui, il se l'est posé parce qu'il était la victime. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu le coup. Il a dit, j'accepte. Ça veut dire que le geste d'Yitzhak d'accepter de mourir pour Hachem est une extraordinaire leçon de courage, Gvoura. On arrive à la 3e définition. Et entre les deux, il y a une synthèse, comme toujours, qu'on va appeler Tiferet. Tiferet, ça veut dire la gloire. Et Julo, ça veut dire. Le personnage qu'il incarne, c'est, vous l'avez marqué sur la feuille, Yaakov. Voilà pourquoi on parle toujours de 3 patriarches. Abraham, d'un côté, Yitzhak, l'autre extrémité, Yaakov, la synthèse des deux. Et qui va s'appeler Israël? C'est Yaakov. C'est-à-dire être juif. C'est-à-dire la synthèse des deux extrêmes pour prendre la décision de continuer. C'est sur ce mode-là que la vie est organisée. Alors, si on revient au Patariléum, premier jour, la Sphira qu'on a compté, c'est Chesed Sheba Chesed. Le deuxième jour, regardez, c'est Gvoura Sheba Chesed. Comment je peux faire dans ma vie pour atténuer l'amour par la rigueur? Troisième jour, Tiferet Sheba Chesed. Comment je veux faire dans ma vie pour améliorer ma capacité de synthèse des deux, d'incarner ce qu'on appelle la gloire, que la traduction ne veut pas dire grand-chose, dans le cadre du Chesed. J'arrive à droite de notre petite feuille là, à la 4e Mida, qui s'appelle en hébreu Netzar, qui a été incarnée par Moshe Rabbeinu. Que veut dire le mot Netzar? Hein? L'éternité, ça veut dire aussi la victoire. Mais là, en l'occurrence, c'est l'éternité. Ça veut dire quoi? La Mida de l'éternité. Comment vous comprenez ça?
Le retrait des limites.
Hein?
Le retrait des limites.
Oui. Mais éternité fait référence à quel type de monde? C'est dans quel domaine, l'éternité?
Du monde futur.
Non, le... Non? Plus simple. Pardon? Plus simple. Le temps. Et qui veut dire éternité, dit temps. C'est-à-dire dans le temps, c'est une mida qui se poursuit, qui ne s'arrête jamais. Ça n'est ça. Akadosh Baruch Hu en français, on le traduit par l'éternel, qui est pour une fois une très bonne traduction. Parce que le nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, c'est les consonnes du verbe être à tous les temps. Aya, Ove, Ihye. Il était, il est, il sera. Si on vous demande une définition de Dieu, dites, c'est celui qui a toujours été, c'est celui qui continue d'être, et celui qui sera toujours. C'est le verbe être à tous les temps. Et ces dimensions-là, c'est ce qu'on appelle Netza. Alors maintenant, donnez-moi dans la vie comment on peut incarner ça, vivre ça, en disant n'importe quoi.
Vivre le jour le jour.
C'est ça l'éternité?
Mais
nous mets une baffe de ma part, semble. Il a dit exactement le contraire de ce que je voulais, mais ça fait rien. Je reconnais que tu as eu le courage de... Hein? En ce sens que... Voilà, ça veut dire en fait, je vais formuler comme ça si vous permettez, dans nos vies, il faut faire des actes qui s'inscrivent dans l'éternité. Quelque chose qui dure. quelque chose qui ne s'arrêterait jamais. Or, tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'en fait, si je devais, moi, vous donner une interprétation un peu personnelle, mais qui, je crois, est fidèle à ce que nos sages disent, quand, en tant qu'homme ou femme, je vis la Mida de Netzam, je choisis des choses dans ma vie que personne ne pourrait détruire. Arrêtez. Voilà pourquoi, en disant une mitzvah, il a bien répondu. Parce que qu'est-ce qu'on fait les uns les autres à votre âge? On fait des études pour passer des examens, avoir une profession, s'engager dans la société, et puis quoi? Et puis un jour, ça s'arrête. C'est pas vivre dans l'éternité que vivre comme ça. Faire ce genre de choix uniquement, c'est très dangereux. Ça veut dire que, bon, on va m'appeler un jour docteur Benamou parce que j'ai fait des études de médecine. Puis un jour, je serai docteur Gâteux Benjamin, Benamou. Et bien après, je ne serai plus rien du tout. On aura besoin d'un tour d'un docteur. Ça veut dire que toutes les actions de la vie, on ne mesure jamais leur impact vers l'éternité. Voilà pourquoi, quand vous avez dit les unes et les autres, on a ma bas, le machin, etc., j'ai pas dit non, mais c'est pas la vraie Mida. Est-ce que vous avez bien compris maintenant ce que j'ai voulu exprimer? Netzar. Voilà le personnage qui incarne cette Mida, c'est Moshe, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire?
L'éternel.
Hein? Elle est éternelle. Elle a été donnée il y a 3300 ans. Elle est toujours là. La grande civilisation égyptienne n'existe plus. Les Phéniciens n'existent plus. Les Grecs de l'Antiquité non plus. Les Romains et compagnie. La Torah, elle est toujours là. Netza. C'est là. Voilà pourquoi le sens de victoire est aussi dedans. Celui qui a gagné, il a gagné pour toujours. Ça s'appelle Netza. En face, au même niveau qu'on appelle numéro 5, on a une Mida qui s'appelle Hod, qui est incarnée par le personnage de Aaron. Aaron, oui, il fait frais, hein. Hein? Ouais, c'est très bien fait. La Mida de Hod. Hod veut dire la splendeur. Et en fait, ça veut dire une dimension que j'ai qualifiée là de esthétique. Hod. Quelque chose de magnifique. Quelle était la Mida de Aaron? Les qualités de Aaron? C'est connu comme le loup blanc. Quelle était la plus grande qualité de Aaron?
Shalom.
Shalom. Oev Shalom. Rodev Shalom. Il aimait la paix, il poursuivait la paix. C'est quelqu'un qui se fâchait avec personne. Tu pouvais lui marcher sur les pieds, tu pouvais lui faire du mal, tu pouvais faire ce que tu veux avec lui, ça ne se fait jamais. C'est ça le vrai Shalom. Parce que dans la vie, on a mille raisons de se fâcher, de se bagarrer, de lutter. Struggle for life. Ok? Non, non. La Mida de Aaron, c'est... On essaye d'apaiser les tensions. Quand il y a un problème dans un couple, c'est que chacun veut avoir raison. La Mida de Aaron, c'était de dire à chacun, peut-être que l'autre, il a raison. Ah, tiens, j'y ai pas pensé. Shalom. L'équilibre. Et lorsque on fait la synthèse entre Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen, entre Netzar et Hod, on arrive à la sixième Mida, qui est le Yesod. Yesod veut dire en hébreu le fondement, qui est la Mida de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, on l'appelle le... Le Tzadik. Yosef Atzadik. Et c'est basé sur un verset qui dit Tzadik Yesod Olam. Le tzaddik est le fondement du monde. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a été capable de ramener tous ses actes à l'essentiel sur lequel tout repose, il est dans la dimension du Yosef, le tzaddik, de Yesod. Et au-dessous, il y a une septième et dernière Mida qui s'appelle en fait Malchut, qui veut dire Malchut, la royauté, qui est la Mida de David à Meler. David, on l'appelle toujours à Meler. Comme on dit Moshe Rabbeinu, Yosef Atzadi, Abraham Avinu, on dit David Ammelech.
Sauf quand il est mort.
Hein?
Sauf quand
il est mort. Bon. Mais pourquoi on l'appelle Ammelech? Bon, il n'y avait pas d'autre roi dans Israël?
C'est pas le roi qui a marqué l'histoire d'Israël?
David?
Ouais. C'était vraiment le roi.
C'est-à-dire, en quoi il était le roi?
C'était le premier.
Non, parce qu'avant lui, avait Shaoul.
Shaoul était destitué, mais il n'est pas mort roi.
Exact, bravo. Mais en fait, la vraie raison, c'est que David est le seul de tous les rois qui ne visait qu'une seule chose, c'est grandir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu es roi, tu as tendance à t'arroger des pouvoirs, à prendre un peu de kavod. Je suis quand même roi, hein. Vous connaissez beaucoup de présidents de la République modestes, vous? Moi, j'en ai connu quelques-uns, j'en ai jamais connu un seul modeste. Et c'est pas demain la veille, comme dirait Simone Veil. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les... Quoi? Et tu dis toujours des énigmes. Quoi?
Sarkozy
est modeste. Mon porte-parole redit plus fort.
Tu viens de dire une très grosse bêtise.
Tu vas avoir des
problèmes. Je vais te dire. Voilà. Moi, Sarkozy, il a le mérite d'avoir fait ce qu'il a fait et d'avoir fait pas mal de choses pour la France. Ceci étant, je peux te garantir que plus orgueilleux que lui, je ne connais pas. Et quand je parle d'un président de la République, sur Arras de Shalom, ne voyez aucune prétention dans ce que je dis, ce que je les ai connus de près. J'ai connu Mitterrand, j'ai connu Chirac, et j'ai connu Sarkozy. Chirac était comme il était, Mitterrand était comme il était, je ne juge pas la politique, mais au niveau humain, et l'un et l'autre, ils avaient des qualités énormes. Sarkozy, il aime une chose. Sarkozy. Et je dis ça depuis le premier jour, moi. Ceux qui sont proches de moi, ils m'ont entendu le dire. Bon, après, je me suis un peu arrêté de le dire parce que je ne voulais pas que ça parvienne à ses oreilles. Pas la peine de... J'avais une position dans la communauté. Je ne voulais pas que ça soit l'expression de la communauté. Mais en tant qu'homme, valeur, pas grand-chose. Et ça, ma fille, je sais de quoi je parle. Ce sont des hommes, tout cela, que j'ai connus, que j'ai vus dans le cadre de rendez-vous, d'entretiens privés, que j'ai connus dans le privé. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais ça, en fait, de toute façon, tous les hommes, ils pensent qu'à eux. Mais lui, vraiment, s'il y a une chose qui le caractérise, c'est ça. Cette gava, je te répète, c'est très difficile. La seule excuse que je lui donne, c'est qu'il est président, le pauvre. Ça veut dire que tu finis par croire que tu es quelqu'un d'important. Connaissez le faste de l'Élysée. Moi, je suis allé, je vous répète, j'en tire vraiment aucune gloriole. J'ai dû aller à l'Élysée. Je vais essayer de ne pas exagérer. J'étais grand-maman pendant 21 ans. Par an, j'allais au minimum 5 fois. Donc plus d'une centaine de fois à l'Élysée. Je ne parle pas seulement des réceptions officielles, des Grotemeniques et compagnie, mais même quand j'allais demander un rendez-vous au président, quel qu'il soit. Si vous savez le kavod qu'il y a là-bas, et que voir quand on arrive dans la cour de l'Élysée, la fanfare, mais comment il s'appelle ça?
La garde royale.
Ça s'appelle pas la garde royale. La garde républicaine. La garde républicaine s'appelle. Et que tous les jours tu vis à ce rythme-là, que tu peux pas faire un petit jet, un petit lever un doigt sans qu'on te serve, tu vis dans des appartements somptueux, tout le monde te fait de la courbette, tu finis par prendre pour quelqu'un. David Améler, voilà quelle est de sa qualité. Parce que tout le cavon qu'on lui faisait, il le réfléchissait comme un miroir. Et il disait à tout le monde, je ne suis pas le roi c'est lui. Et voilà pourquoi on l'appelle David Améler. Parce que lui, il ne s'arrogeait, il ne s'appropriait aucun kavod. C'est la grandeur de David. Et la Gemara dit ça de façon somptueuse. Elle dit un verset qui dit, David on l'appelle Katan. David à Katan. Et je termine seulement par cette idée-là, parce que je crois que c'est l'heure. Ah, on a encore un peu de temps.
David Arnaud, non? Alors on
parle de Kadosh Baruch Hu, bien sûr. Et cette idée-là, vous la trouverez dans une Gemara dans Houlin, page 60, où là-bas on nous dit, lorsque Hachem a créé le monde, il a créé, marqué comme ça dans les versets, Shnei Meorot Agedolot, les deux grands astres. Et de là, nos maîtres déduisent au début de la création, le soleil et la lune étaient de puissance équivalente. Ils brillaient autant l'un de l'autre, tant l'un que l'autre. Alors on raconte là-bas dans la Gemara que la lune est allée voir Kadosh Baruch Hu, lui a dit, écoute, maître du monde, il ne sied pas à deux rois de se servir d'une même couronne. La bicéphalie, c'est pas bon. Deux têtes. Il faut donc qu'il y ait un roi. Alors Hachem dit, très bien, puisque tu as une bonne idée, tu as qu'à devenir petite. Or la lune, elle a protesté. Elle dit, mais comment, tu me dis, j'ai dit une bonne idée, tu me dis, sois petite, comme si tu me sanctionnais. Et à la réponse de Hachem, elle est extraordinaire. Il lui dit, mais ma fille, sache que dans ma bouche, devenir petit, c'est pas un défaut. J'ai pas voulu te sanctionner. J'ai pas voulu te punir. Et elle apporte là-bas la Gemara. La preuve, ce qu'on dit, David à Katan, Shmuel à Katan, Israël à Katan. Et elle ramène les versets où Israël est appelé petit peuple, où David est appelé petit, et où Shmuel, le prophète, est appelé petit. Pour dire qu'en hébreu, le mot Katan n'est pas péjoratif. On termine juste l'idée, justement. Je vous pose une question maintenant de Halakha, puisqu'il y a des rabbinim ici présents. Si vous êtes un vendredi soir à la maison et vous devez faire motzi, vous avez devant vous un grand pain qui est coupé et un petit pain qui est entier. On fait la bracha sur le petit. Pourquoi ? Parce qu'il est entier.
Je vais le refaire les télims parce que franchement, je crois que c'est un peu entier.
Non, mais
en plus, j'aimerais dire un truc sur Sarko.
Oui, oui. Ah, sur Sarko, elle est têtue, hein. Mais non, mais je t'écoute, moi je suis prêt à écouter.
Non, parce que vous savez que moi je suis une sarkozyste, mais je connais de lui que ce que je vois de lui à la télé. Et je suis très surprise. Non, mais vraiment, vous savez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, je sais pas comment vous expliquer.
Non, on parlait d'amour.
Votre amour importe énormément. Parce que vous êtes mon rage. Et Sarkozy, bon, c'est de la politique, je suis d'accord, mais c'est rare que je fasse quelque chose pour quelqu'un qui soit justement quelqu'un de si lointain.
Alors, je peux juste, excuse-moi, te répondre avant que tu continues à ta question éventuellement. Moi, j'ai énormément d'admiration pour M. Sarkozy. Énormément. Il a une intelligence supérieure. Il a une capacité de décision unique. Je peux même te donner deux exemples que j'ai vécu avec lui. Moi, je parle des midot, tovot, des qualités morales. C'est deux choses différentes. Je vais te donner un exemple. Chirac était vraiment, je peux dire sans exagérer, sans contre la grenouille, c'est un ami. La preuve, c'est qu'il continue de me rendre visite. J'ai Chirac à la maison, à peu près, sans exagérer, toutes les 5 à 6 semaines, il vient me rendre visite. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour moi, une admiration, bref. Mais je lui avais par exemple demandé de mettre Shavuot sur le bulletin officiel de la République pour ne plus qu'il y ait d'examen à Shavuot. Parce que comme ça tombe souvent en mai-juin, ça coïncide avec les examens dans les facultés.
À
Chirac. Il ne l'a jamais fait. Par contre, par exemple, en 80... Où est-ce qu'il a fini Chirac 80...
Il a fini en 2002.
Il a été élu en...
Il a été élu en 2002.
Donc la première fois, il a été élu en... 95. En 94, il y a les examens d'entrée à la faculté de médecine qui sont tombés à Shavuot. J'ai eu évidemment les lettres de tous les étudiants en médecine, qui sont très nombreux grâce à Dieu en France, juifs, qui se plaignaient à moi. Je les vois, le président en personne. Je lui dis, monsieur le président, regardez la réaction de Chirac, qui définit bien ce que nous voulons dire. C'est pour ça que je te répète, je sais de quoi je parle. Chirac, il dit, il était là, j'étais seul avec lui, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Il me dit, ah non, comme ça. On ne va pas empêcher les juifs de rentrer en médecine. Ce sont les meilleurs médecins. S'ils ne sont pas à l'entrée, comment voulez-vous qu'ils soient à l'arrivée ? On n'aura plus de bons médecins en France. Tu vois la réaction affective et sympathique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a déplacé l'examen. Bon. L'année d'après, il y a des élections à la présidence. Je vais voir le candidat Sarkozy, quelques jours avant les élections. Je vais le voir dans son QG. Là, il y avait un QG, c'est une rue, c'était impressionnant, avec Ephraim, mon fils. Je vais le voir, je dis, monsieur le président. Monsieur Sarkozy. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce qu'il serait possible de maître bulletin officiel de la République française, la fête de Shavuot. Actuellement, il y a toujours eu depuis 30 ans, Rosh Hashanah et Kippour. Il n'y a pas le droit, ils n'ont pas le droit de fixer un examen. Si une fac, elle fait un examen, un élève, il a le droit de dire « Vous êtes trompé, vous êtes en infraction. » Ils sont obligés de déplacer. Mais Shavuot, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il me dit Sarko ? Il me dit « Je le ferai. » Il a été élu, un mois après, il l'a fait. Donc, je donne une preuve. Deuxième preuve. Je lui ai demandé, voilà, j'ai su par, comme j'étais président du rabbinat européen, qu'au niveau européen, la Shrita était menacée, l'abattage rituel, et qu'il y avait, je l'ai su par un de mes collègues de Strasbourg qui suit bien le dossier, il y avait un décret prêt à la signature du président de la République française, qui en l'occurrence aurait été décisif dans le quorum, pour interdire la Shrita en France. Je dis comme ça, monsieur Sarkozy. Si ce décret y passe, ça veut dire aux Juifs, ça, moi j'ai pas été par 4000 chemins, je dis, si ce décret passe, ça veut dire vous dites aux Juifs, out, exit. On ne peut pas vivre avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne ferai pas voter ce décret. Et il n'a pas été voté. Donc j'ai donc deux preuves de son efficacité. J'ai donc aucune raison de ne pas avoir de la sympathie pour lui. Mais en tant qu'homme, dans les Midot.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.